Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou et Fanny Cohen-Moreau, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Jean-Philippe Jeanne. Où porter son regard cette semaine ? Sur une des choses les plus mignonnes que j'ai vues l'année dernière, l'album dessiné publié aux éditions 4048, la collection jeunesse des éditions 2024. Bienvenue à Bibiville, de l'auteur et illustratrice Éponine Cottet. Dedans, une farandole de gracieux chiens espiègles dans une ville recueillant les canins délaissés. Particularité des lieux, les habitats sont fondés par Walter Bibi, chien architecte affectionnant les sols penchés. Je vais garder mon sérieux jusqu'à la fin de cette chronique. Les dessins au feutre ont un charme fou, tout comme les irrésistibles noms des personnages. Une confiserie censée s'adresser aux enfants auxquels nous disons « Halte là, il est temps de partager certains de vos privilèges !» Notre invitée est une comédienne à la vitalité ébouriffante qu'on a pu voir dans des films de Claire Denis, Xavier Giannoli, Jérôme Bonnel, Guillaume Niclou, Michael Haneke, Agnès Jaoui, Benoît Jacquot, Karine Tardieu ou Solveig en SPAC. Récemment aperçue en kimono dans À propos de Joanne de Laurent Larivière, elle fut également la fameuse Marie-Jeanne, agent de la DGSE dans la série Le Bureau des Légendes. Elle sera prochainement à l'affiche du film Le Syndrome des Amours Passés de Anne Siro et Raphaël Balboni et d'Ibissa réalisé par Stéphane Demoustier.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Florence Loirecaille.
Bonjour Eva Bester.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde ?
Contente, oui, je pense. Oui. Je pense être contente d'être en vie, bien sûr. Oui. Bien sûr, évidemment. Oui.
Grosse hésitation au début tout de même, mais bien sûr.
Non, mais je m'étais jamais posé la question.
Je vous la pose. Oui. Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Oula. On est plusieurs, hein. Mais
qui répond alors ?
Oh, ben, y a plusieurs habitants. Il s'agit de. Parfois, on fait plus plaisir à cet habitant, parfois moins. Voilà, c'est plus compliqué, oui.
Il y en a un qui prédomine ?
Oui, je pense que ça reste moi quand même. Hein. Oui, tout va bien. Oui.
Puisque les autres habitants à l'intérieur de vous, Florence Loirecaille, ce n'est pas vous, ce sont d'autres gens, des étrangers.
Des étrangers, d'autres...
René Coty, Pompidou.
Le chien de Pompidou.
Ah oui.
Bien sûr. Ouais. On est multiples, hein. On est moult.
Oui. Alors, plusieurs choses vous donnent envie de vous lever.
Oui.
Et dans les premières, il y a les matchs de foot de votre fils et votre fils quand il n'a pas de match.
Oui, c'est vrai.
Il faut commenter un petit peu parce que sinon je vais parler toute seule.
Ah pardon. En effet, c'est ce qui m'est venu en premier. Voilà, de vivre avec un petit être comme un enfant, c'est toujours une expérience assez inouïe, chaque jour davantage.
La lumière du jour, même quand elle est grise.
Ce serait plutôt la lumière du soleil quand même. Hein. Oui. Mais tant qu'il y a la lumière, ça va.
L'inattendu, est-ce qu'il arrive souvent ?
Parfois, malgré nous, oui, parfois on peut le provoquer. J'aime beaucoup ça, oui. J'aime beaucoup ça quand, au cours d'une journée, il peut se passer plein de choses. Avec quelqu'un dans les transports en commun, d'assister à des scènes. Oui, ça, j'aime bien voir les choses un peu de biais. Et l'inattendu en fait partie, oui.
Comment est-ce qu'on le provoque ? Vous venez de dire qu'on pouvait le provoquer.
Par exemple, il y a des rencontres comme ça, inattendues, et on a envie d'y revenir. Parfois, je parle à je parle de personnes que j'ai pu rencontrer, à qui j'ai pu me confier beaucoup plus qu'avec certains de mes plus proches amis, quoi.
L'homme que vous aimez, Florence Loirecaille, je vous laisse commenter ou pas ? Vous n'êtes pas obligé.
Non.
Non, en tout cas c'est joli de le mettre dedans. Dans un instant, il sera entre autres question de Sagan, d'hypocrisie, de jeu, de la DGSE, des Atrides, de Duras, de théâtre, de feu intérieur, de masque et de l'Indonésie. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Eva Bester sur France Inter.
péter la glace. Même elle me regarde comme si j'étais la glace. Je reflète la cour et qu'elle met en place. Mais t'as la monde, tout ce qui la gâte. Y'a des échos sur elle, mais ça vole pas. Qu'il se passe, ces mouvements de psycho me dépassent. Elle m'emmène en bateau, fait boire la tasse. Son numéro me laisse à la surface. Elle me regarde comme si j'étais la glace. Je reflète la cour et qu'elle met en place. Mais t'as la monde, tout ce qui la gâte. Y'a des échos sur elle, mais ça vole pas. Elle me regarde comme si j'étais la glace. Je reflète la cour et qu'elle met en place. Mais t'as la monde, tout ce qui la gâte. Y'a des échos sur elle, mais ça vole pas.
Papa Constantino et ses harmonies grecques, le morceau Glace dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec Florence Loirecaille qui aimerait que les richesses soient redistribuées équitablement, mais malheureusement, je vous cite Florence Loirecaille, ce sont des intérêts économiques échappant au commun des mortels qui mènent le monde. Est-ce que ça vous affecte ? Est-ce que ça vous révolte ?
Ah bah oui, oui, bien sûr. Après, c'est énorme, quoi. Ça nous échappe complètement. Mais c'est vrai que ces derniers temps, oui, ça me révolte, ça... oui, je suis. Je sais pas quoi faire, quoi. Voilà.
Vous vous sentez impuissante, désemparée.
Oui, voilà. Je suis témoin de ça. Enfin, on est plusieurs, hein.
Oui.
Voilà, c'est un vaste sujet.
Il faut entrer en politique pour changer les choses de l'intérieur, mais personne ne croit plus à la politique. Enfin, rares sont ceux qui y croient encore.
Bah, c'est difficile d'entrer en politique. Après, on peut le faire autrement aussi. Il y a d'autres biais, je pense aussi, pour s'engager, je veux dire, comme jouer.
Ouais.
Je sais pas.
Justement, dans les autres changements que vous aimeriez voir, peut-être plus accessibles, Florence Loirecaille, c'est qu'il y ait des cours de cinéma et de poésie enseignés dès le plus jeune âge. Racontez-nous le cours idéal, on commencerait à quel âge ?
Bah, l'école, je crois que c'est bien pour que les enfants soient sociables, et tout ça, qu'ils rencontrent d'autres enfants d'autres univers. Donc je trouve ça bien, 6-7 ans. Voilà.
Pour commencer les cours de poésie et de cinéma à 6-7 ans.
Ouais.
Et alors, le cours idéal, ce serait quoi ? Qu'est-ce que vous, par exemple, imaginez, vous êtes une prof, puis vous allez enseigner soit un cours de poésie, soit un cours de cinéma ?
Ben oui, c'est je ferai apprendre un poème à chacun, et après je le ferai jouer, il faudrait que ça passe par le corps, faire des exercices, des rondes aussi, j'aime bien les rondes des enfants, même d'adultes, je trouve qu'il se passe plein de choses quand des êtres humains font une ronde.
Quand on se tient la main comme ça.
Voilà, ouais, c'est des espèces de, ça remonte à des temps un peu immémoriaux, j'aime bien, et il se passe toujours des choses, et oui, parce que maintenant ils apprennent un peu les poésies comme des robots, quoi, des dabadoudou, et du coup on retient plus rien, même nous on retient plus rien de nos poésies de l'enfance, parce que c'est pas passé par le corps, en fait.
Mais c'est intéressant, justement, c'est la première fois que j'entends cette idée, parce que je ne me suis pas beaucoup penchée non plus sur le sujet, mais pour apprendre la poésie, moi j'ai appris petite les poésies comme ça, en récitant de façon automatique.
Mais oui, voilà, par tête et pas par cœur ou par corps.
Vous en lisez beaucoup de la poésie ?
J'en lis pas mal, ouais, pas mal. Surtout quand ça va pas, justement, quand le monde entier à 360 est un peu catastrophique, où il y a que des catastrophes, ça m'aide beaucoup, ouais.
Vous tournez vers la beauté, vous avez, par exemple, quels sont les recueils que vous avez à côté de votre lit ?
Ah ben, c'est Henri Michaud, Poteau d'angle, Écrire de Duras. Parce que dans Écrire de Duras, on remplace jouer par écrire et on a toute la définition du jeu, en fait. Il y a plein de livres comme ça, de chevet, oui, oui. La poésie ou des correspondances ou des journaux. J'aime beaucoup le journal de Etil Soum aussi. On peut relire plusieurs fois. Et à chaque, en fait, ah, moment de la vie, chacun de ces recueils, on peut les lire n'importe quand et ils prennent une autre couleur.
Ça vous arrive, Florence Loirecaille, d'apprendre des textes, pas pour le travail ?
Bah non, j'aimerais bien en fait, mais je le fais pas par paresse.
Bah oui, mais parce que comme votre métier, c'est quand même d'apprendre énormément, énormément de textes.
Oui, mais en fait, je n'entretiens pas assez mon muscle de la mémoire, c'est pas bien.
Oui, il paraît que ça. C'est pour pouvoir prendre des anxiolytiques, j'apprends des fables de La Fontaine.
Ah ouais ?
Oui, parce que ça abîme la mémoire, donc je lutte comme ça.
Ah ouais ? En apprenant ?
Bah oui.
Bah, à cause des anxiolytiques ?
Oui, parce que ça attaque la mémoire.
Les anxiolytiques.
Oui, alors là, attention, un message du ministère de la Santé, n'en prenez pas des anxiolytiques.
Non.
Allez courir.
Oui, allez lire la poésie.
Sortez-moi de cette confession gênante, Florence Loirecaille, vous nous liriez un texte ?
Oui, si je le retrouve.
Ah oui,
un texte allez-y. De Henri Michaud, je pense, où il faut que je le retrouve. C'est un extrait de Henri Michaud, donc « L'espace du dedans ». Il y a tant d'animaux, tant de plantes, tant de minéraux, et j'ai été déjà de tout et tant de fois. Mais les expériences ne me servent pas. Pour la 32e fois, redevenant chlorhydrate d'ammonium, j'ai encore tendance à me comporter comme de l'arsenic. Et, redevenu chien, mes façons d'oiseau de nuit percent toujours. Rarement je vois quelque chose sans éprouver ce sentiment si spécial. Ah oui, j'ai été ça. Je ne me souviens pas exactement. Je sens. C'est pourquoi j'aime tellement les encyclopédies illustrées. Je feuillette et j'éprouve souvent des satisfactions. Car il y a là la photographie de plusieurs êtres que je n'ai pas encore été. Ça me repose. C'est délicieux. Je me dis, j'aurais pu être ça aussi. Et ça. Et cela m'a été épargné. J'ai un soupir de soulagement. Oh, le repos.
Merci, Florence Loirecaille. Autre changement désiré. Que des hommes n'exercent plus de pouvoir sur des femmes. Le dé apporte de la nuance, ce qui est appréciable. Comment concevez-vous cela ?
Non, ce que j'aime pas, c'est que quand des hommes oppriment oui, c'est ça, en fait, c'est la relation de pouvoir, que ce que vous voulez, je sais pas, en fait, mais je crois que c'est possible, en fait. Après, c'est... En soi, ça dépend si on parle des relations dans un couple ou si on parle des régimes comme en Iran, ou des... Voilà. C'est à la fois extrêmement vaste et extrêmement intime.
Non, je pense qu'il y a des relations vraiment dénuées de rapports de force. Il y a des relations d'amour, d'amitié, qui sont véritablement dénuées de rapports de force.
Oui, voilà, oui. Mais c'est un peu ça que je cherche un peu. Et vous aussi, j'espère.
Oui, oui. En tant que comédienne, Florence Loirecaille, avez-vous déjà ressenti un sentiment d'emprise sur un plateau ? Certains réalisateurs et réalisatrices, j'insiste, aussi des femmes, étant connues pour exercer une réelle manipulation sur les acteurs.
Oui. Non, personnellement, non. Je pense que très tôt, j'étais armée. Alors, parce que c'était tellement difficile pour moi de faire de ma passion mon métier, que j'ai mis tout dans le jeu, en fait. Donc tout le reste n'avait strictement aucune importance. Donc on pouvait me dire que j'étais trop ci ou trop ça. Pendant des castings, ça, bien sûr, ça m'affectait, puisque j'étais déçue que par mon jeu, ça marche pas. Enfin, je pensais qu'il y avait que par le jeu qu'on pouvait... que je pouvais réussir j'allais dire à témoigner de la vie, mais oui, c'est ça. Donc, non. Mais c'était aussi, je pense, une forme d'orgueil, une façon de me préserver, comme depuis... j'ai toujours été assez sauvage et assez farouche, donc du coup, Je me disais que si... En fait, j'arrivais, comme je savais même pas ce que c'était qu'une caméra, en fait. Je pensais même pas qu'on pouvait faire refaire des prises. Donc, j'arrivais d'Indonésie, je suis complètement perdue. Donc, quand je jouais, je pensais qu'on pouvait pas se tromper. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers...
Donc, il y avait un enjeu très fort.
Oui, voilà. J'étais vraiment... Je me transformais. J'étais le rôle, quoi. C'était moi.
Vous avez souvent campé des femmes puissantes à l'écran pour utiliser l'expression de Marianne Jai qui a donné son nom à l'ancienne émission de Léa Salamé. Enfin, sauf quand vous vous faites littéralement dévorer par Vincent Gallo dans Trouble Every Day de Claire Denis. Ouais. Est-ce que vous le prenez en compte dans le choix de vos rôles, ça, Florence Loirecaille, le statut de la femme que vous campez?
Non, je ne pense pas. Ça D'accord. m'échappe. Après, je ne suis pas encore dans une situation où je peux, où j'ai le luxe de choisir tous les rôles, en fait. Parce que j'ai fait des choses super intéressantes, mais il y a aussi y a un statut intermittent et je dois aussi quand même travailler pour faire des heures. Hein, c'est l'aspect concret du travail et je fais pas toujours les choses que j'aimerais faire, mais j'en fais mon affaire, je les fais miennes, quoi, je me les approprie.
Il y a une interview où vous dites en termes de carrière, je ne vise pas le PSG, mais plutôt Saint-Etienne.
oui, c'est ça. Oui. C'est un certain rythme. Bon, je pensais qu'il y aurait des petites accélérations après le bureau des légendes. Je pensais que, des petites roues, des petits chapeaux, des chapeaux de roue, tout ça. Mais en fait, non, ça reste encore quelque chose à. C'est pas toujours facile hein, d'avoir des beaux rôles.
Bon, bah, peut-être que des grands scénaristes et réalisateurs, réalisatrices écoutent cette émission et vont entendre. Florence Loirecaille, vous avez ajouté dans les réponses que vous nous avez renvoyées une très jolie citation de Sagan. La société vole le temps, la seule chose que chacun possède pour en faire ce qu'il veut. La société s'en moque, elle n'a aucun respect pour les individus. Tout se passe comme si chacun sacrifiait 10 ou 15 années de sa vie sur l'autel de l'économie. On peut la trouver dans Un certain regard, recueil d'entretien publié au Cahier de Lerne en 2008. Vous avez aussi l'impression d'en faire les frais? De cette capture du temps?
Bon, moi, ça va parce que par le métier que j'exerce, j'ai des phases où je ne travaille pas, même s'il faut que je travaille, mais je n'ai pas un travail où je dois être hors de chez moi tous les jours. Mais je trouve que, oui, autour de moi, dans ma famille, oui, je pense que c'est des gens qui exercent des métiers, ils n'ont pas de temps pour eux, quoi, où le temps file, où ils n'arrivent pas à... C'est comme si on était avec une aiguille avec du fil et qu'on n'arrivait pas à mettre le fil dans l'aiguille, quoi. Le temps file trop, quoi.
À rebours de ce qu'on vient d'évoquer, justement, vous vous engagez pleinement dans le jeu pour le jeu, l'art pour l'art et pas le commerce. Alors moi, l'art pour l'art, c'est une notion apparue chez Victor Cousin, Edgar Poe, Théophile Gautier. Moi, j'ai pensé tout de suite à Oscar Wilde et Robert Filliou qui en ont été les chantres. Pour vous, c'est l'art... gratuit, l'art sans utilité, sans morale, le jeu presque de l'enfance, le plaisir pur.
Oui, le plaisir et le témoignage de la vie, ouais, en fait. Oui, c'est ça, c'est donner à voir, donner à entendre, mais n'être personne, en fait. Ne pas accorder d'importance à ce qu'on est en tant qu'acteur, en fait.
Pas d'ego.
Si, l'ego, je pense qu'il en faut, mais... avant un tournage, enfin, et pour se concentrer, pour se dématérialiser aussi. Enfin, c'est assez ambigu. Mais par contre, ce que je constate depuis ces dernières années, c'est que il y a beaucoup d'acteurs ou de chanteurs, surtout des femmes qui sont agrippées par des maisons de couture, des marques. Je sais pas, comme si. La célébration de la célébration, je sais pas comment on dit, faisait que enfin, c'est une drôle de machine où je me dis j'espère qu'il faut pas être égérie pour continuer à travailler quoi. Enfin voilà, ça me fait un petit peu
ne pas se vendre.
Ça me pose un peu question, ouais, voilà, ça me pose un petit peu question. Mais bon.
Vous avez joué Florence Loirecaille dans le film Au voleur de Sarah Léonore et vous dites dans une interview pour le site Bande à part qu'il n'y avait plus du tout de frontières entre le jeu et la vie dans ce tournage, et qu'à partir de ce moment-là, vous n'avez plus eu l'impression de jouer.
Oui, c'est ça. En fait, c'était comme si on tournait un documentaire sur... Oui, Guillaume et moi, à ce moment-là.
Guillaume Depardieu.
Oui, pardon. Oui. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui avait une grande sauvagerie en lui, et indomptable, et ça me... ça m'a mis dans un certain état, oui, c'est ça. C'est, mais jouer, c'est être aussi dans cet état-là de documentaire sur soi, hein, même si on avance masqué, hein, mais on est quand même... c'est faut se laisser regarder, quoi. Faut oublier qu'il y a 15 personnes qui nous regardent et qu'on est seul. Et c'est vrai qu'avec Guillaume Depardieu, j'ai eu cette sensation très, très fort. Mm-mm.
Le cœur affirme des choses parfois contradictoires. Il dit « je pense ceci », mais le principe, c'est ça. C'est par la souffrance que vient la connaissance. Ça, c'est un leitmotiv. Le cœur, d'ailleurs, n'arrête pas de s'adresser, évidemment, au public, de se poser des questions, de se demander pourquoi son corps fait ça, pourquoi est-ce qu'il se sent si mal, pourquoi est-ce qu'il est angoissé alors que tout va, semble-t-il, bien. Pourquoi est-ce que mon cœur, qui reçoit les nouvelles venues de l'intérieur de moi, bat le rythme funèbre de l'érinie? Mais donc il se pose des questions et en même temps, il découvre. Il découvre qu'il y a un bon choix, un mauvais choix, qu'il y a des dieux, bien sûr, qu'il y a de la volonté des dieux, bien sûr, mais qu'il y a aussi du choix. Et ça, je pense que c'est le fondement, enfin la base même de la tragédie. C'est, bien sûr, il y a du destin, mais pas seulement, il y a aussi du choix.
La metteur en scène Ariane Mouchkine dans Culture Matin en 90 sur France Culture au micro de notre cher Jean Lebrun. C'est l'année de la création à la cartoucherie de la pièce Les Atrides d'après Eschyle que vous avez vu. En arrivant d'Indonésie, vous avez grandi, Florence Loirecaille. Vous avez eu l'impression de rentrer dans un temple balinais et la pièce fut un choc absolu. Et je vous laisse prendre le relais, nous raconter ce qui se passe en vous quand vous voyez cette pièce.
Bien déjà, c'est arrivé dans ce lieu... qui est à la cartoucherie de Vincennes et arrivé dans ce, oui, dans ce temple où ça sent la bouffe, ça sent l'encens, on voit on a accès aux acteurs qui sont en train de se maquiller, on peut regarder derrière des petits interstices, il y a cette scène incroyable et cette armée chinoise dans le sol comme si c'était des restes d'un site archéologique, et il y a Ariane Mouchkine à l'entrée qui déchire les tickets, et moi j'ai dès que j'ai passé la porte de cet endroit du Théâtre du Soleil, je me suis dit c'est chez moi, quoi, c'est je suis chez moi. Je sais pas, c'était le seul lieu, j'étais tellement sans lieu, sans, j'étais comme une île, et j'ai c'est devenu mon île, mais c'est devenu mon rêve absolu, quoi.
Vous passiez votre bac à l'époque et je crois que vous êtes inscrite en lettres classiques pour traduire Eschyle et Euripide, c'est vrai ?
Oui, oui, complètement. Oui, oui. Ah oui, je suis devenue vraiment... j'ai filmé la pièce, je suis allée voir... Il y en avait quatre, il y avait Agamemnon, Iphigénie Aulis, les Euripides, les Coéphores. Je suis allée voir 3-4 fois chaque... Je connais des passages entiers. Ces acteurs m'ont fait rêver parce que ces acteurs sur scène, c'était des dieux. Des dieux, et en sortant de scène, ben pareil, ils étaient plus personne, quoi. C'est vraiment la magie du théâtre, en fait. C'est, pour moi, c'était ça être acteur. C'était incarner derrière un masque, un costume, une danse, une quelque chose qui est plus grand que nous, et espèce de, oui, comme ça, de catharsis, quoi. De faire oui, faire venir la catharsis chez le spectateur et sortir de scène en étant complètement anonyme, quoi. Ça m'a beaucoup marqué.
Vous êtes allée sur la tombe d'Agamemnon, Florence.
Oui, je sais.
Vous êtes une groupie.
Mais
c'est,
oui,
génial.
En fait, c'est comme si j'allais dans un autre pays encore, c'était m'installer encore dans un autre pays. Oui, oui. Ouais, il fallait que je m'échappe. Ouais.
Je crois que c'est aussi suite à cette pièce que vous vous êtes inscrite dans un cours de théâtre pour faire partie de la famille du théâtre.
Pour oui, oui, pour un jour peut-être intégrer le Théâtre du Soleil. Oui, vraiment, oui, c'était mon objectif principal. Oui, oui.
Vous avez fait un stage avec Ariane Mouchkine?
Ah non, non, un stage. Ah non, oui, non, non. En fait, non. Le stage, oui, mais en fait, j'ai joué une morte. Donc en fait, j'ai rien fait. J'ai fait juste la morte. Enfin, même, je respirais quand même.
On m'a dit que vous étiez une morte très charismatique.
Ah bon? C'est impossible. Non, non, j'ai fait 2 jours parce que parfois elle faisait des stages où il y avait des gens du monde entier qui venaient et moi je sais tellement pas participer, mais j'ai quand même j'étais dans un groupe de 4-5 et j'ai fait une morte, ouais.
Ensuite, atelier international de théâtre Blanche Salland et Paul Weaver.
Oui.
Et je vais passer à une autre rencontre déterminante pour vous, Florence Loirecaille. Une réponse très mystérieuse à notre questionnaire. Un horloger dans une ville de France. Ancien agent de la DGSE, comme vous dans le bureau des légendes.
Oui, non, mais alors ça, c'était par rapport à une question...
C'était les rencontres marquantes.
Oui, les rencontres marquantes, oui, oui. Non, mais je veux dire, c'était plus une anecdote, parce qu'en fait, j'étais dans une ville, il ne faut pas que j'en dise trop.
Non, n'en dites pas
j'étais
trop.
Dans une ville, pas je me suis perdue un jour dans une ville pendant un tournage. Et je suis tombée face à la vitrine de cet horloger. Et j'ai vu un pendentif en forme de astrolabe qui m'a vraiment intriguée. Et je suis rentrée dans cette boutique, j'ai rencontré ce monsieur. Et il se trouve effectivement qu'il avait vu le bureau des légendes et tout. Et au bout de une heure ou deux de discussion, justement, où je me suis mise à être avec lui comme si j'étais avec quelqu'un que je connaissais depuis 40 ans, quoi. Et il m'a effectivement parlé de son ancien métier. De comment c'était quoi de créer des liens quand on était sur le terrain, etc. Et ça a été une rencontre assez forte. Et un an après, je suis retournée dans cette ville et je suis retournée voir cet horloger pour racheter le deuxième astrolabe en pendentif qui était dans sa vitrine, que je n'ai pas trouvé. Et je me suis mise à lui parler comme si on s'était quitté la veille, quoi. Bref. Et il était tellement, étonné que je revienne. Enfin, c'était un moment tellement fort qu'il a sorti le deuxième astrolabe pour me l'offrir. Et je trouve que ça, c'est des rencontres assez inattendues où on crée des liens très très forts avec des gens avec lesquels on n'a aucun lien, quoi.
Le fleuve coulait à quelques mètres de la villa, large, décoloré. Le chemin le longeait jusqu'à la mer qui s'étalait, huileuse et grise, au loin, dans une brume couleur de lait. La seule chose belle dans cet endroit, c'était le fleuve. L'endroit par lui-même, non. C'était un petit village au bord de la mer, de la vieille mer occidentale, la plus fermée, la plus torride, la plus chargée d'histoire qui soit au monde, et sur les bords de laquelle la guerre venait encore de passer.
Catherine Deneuve lit l'ouverture des Petits Chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras en 1981. Ce livre, sorti en 1953, fait partie de votre équipement existentiel, Florence Loirecaille. Était-ce le cas avant de jouer cette année dans le film Azzurro de Mathieu Rosé, qui en est une adaptation ?
Oui, oui, c'était même mon rêve de jouer le personnage de Diana depuis que j'ai lu le livre quand j'avais une vingtaine d'années, en fait. C'était mon rêve. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit un jour je jouerai Diana des Petits Chevaux, et Mathieu Rosé, le réalisateur, cherchait quelqu'un pour remplacer une comédienne qui pouvait plus faire le film, et il m'a rencontré comme ça grâce à une interview d'ailleurs où je disais que mon rêve c'était avec quel personnage de fiction j'aimerais bien rencontrer, et j'avais dit je rêve de boire un Campari avec le comment ça s'appelle le personnage je rêvais de prendre un Campari avec Sarah au bord de la mer, voilà.
C'est le récit de vacances d'un groupe d'amis français dans un village isolé d'Italie qui s'ennuie.
Voilà, mais avec une catastrophe qui couve. Il y a ce feu de pinède, de la forêt, alentour. Donc qu'est-ce que c'est, oui, cette espèce de langueur et à côté, cette catastrophe qui est sur le point d'éclater. C'est un peu... je trouve ça c'est assez intemporel.
Avec le récit d'un drame en parallèle, mais je ne dis pas tout pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu. Florence Loirecaille, dans les rencontres qui ont compté pour vous, il y a votre premier professeur de théâtre.
Ah oui, Paul Leroy, oui. Paul Leroy, c'est un professeur, un petit professeur d'un petit conservatoire. Un petit parce qu'il était petit de taille, c'est un peu mon maître Yoda. Et c'est la première personne qui m'a donné la parole, oui. D'ailleurs, j'étais un peu folle à l'époque. J'avais fait en audition, c'était des petites auditions un peu comme ça de principe. J'avais fait un extrait des Atrides quand même. Un extrait de Clytemnestre et tout. J'ai dit waouh. Et en fait, ce monsieur, c'est comme si, voilà, il m'écoutait pour la première fois. Quelqu'un qui m'écoutait. Dire les mots de quelqu'un d'autre. Oui. C'est une grande rencontre. D'ailleurs, mon fils s'appelle Paul en hommage à ce professeur. Oui.
Ouais, joli hommage.
Oui.
To see them before.
Fractals, fractales, comme celles que l'on peut voir sur les boîtes de vaches qui rient, de Beth Orton dans L'Embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Florence Loirecaille.
네, 회수 5번 고객님 여기 계시네요. 축하드립니다. 네, 감사합니다.
여자친구 있어?
여자친구 없는데.
그럼 어떡해? 이거 여자용 손목시계인데. 이제부터 구해야겠네. 이종수.
Extrait du film que tout le monde devrait voir pour être armé dans l'existence, selon vous, Florence Loirecaille, l'adaptation de la nouvelle Les Granges Brûlées de Murakami par le cinéaste et ancien ministre de la Culture sud-coréen qui figure sur votre Instagram, Lee Chang-dong, le titre du film Burning, sorti en 2018, un Jules et Jim silencieux et énigmatique. Et je traduis l'extrait avant de vous donner la parole. On est dans une loterie, dans un marché. Le héros gagne une montre remise par une des filles de la loterie qui la guiche et qui lui demande s'il a une copine. Il dit non, elle renchérit. C'est embêtant, c'est une montre pour femme, alors trouve-toi une copine. Lee Jong-soo, elle connaît son prénom et je vous laisse nous dire pourquoi.
Parce qu'elle habitait dans son village quand elle était petite.
Et il ne la reconnaît pas car elle dit qu'elle est passée sous le bistouri.
Voilà.
Et racontez-nous ce que vous faites en photo avec le réalisateur.
Bah, c'est-à-dire que j'ai une passion pour ce cinéaste, Lee Chang-dong. Voilà, c'est et j'ai eu l'occasion rêvée d'être invitée au Festival Lumière à Lyon, où il était invité aussi, et je l'ai rencontré.
Il y a deux photos sur votre compte Instagram, une avec lui et l'autre avec son nom sur la main. Burning for Poetry is a Peppermint Candy.
Oui, c'est tous les titres de ces films en fait, oui.
Ce film, Burning, Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs si c'était vos amis et que vous vouliez leur donner l'envie de le voir?
Mais quelle chance ils ont de ne pas l'avoir vu, parce qu'ils vont le découvrir et c'est une expérience sensorielle où on navigue constamment entre l'irréel et la réalité, quoi. On ne sait pas dans quelle dimension on est. On peut le lire de plein de façons différentes, on peut le regarder à plein de moments différents dans nos vies. C'est ces films-là que j'adore, où on ne nous mâche pas, on ne nous dit pas là il faut rire, là il faut avoir peur. En fait, tout est à double, voire triple sens à chaque image, et c'est une merveille, quoi.
C'est un jeune garçon, un livreur qui tombe amoureux d'une fille.
Oui, un garçon qui veut être écrivain aussi. Donc voilà, il y a plusieurs pistes en fait.
De conditions très modestes.
Oui, voilà. Il y a plusieurs pistes et c'est un espèce de film à tiroir, à secret. Et c'est un film vraiment assez extraordinaire. Oui, c'est pour nous maintenir justement dans cette. Regarder la réalité par un autre biais aussi. Et s'en échapper, voilà. C'est important, le cinéma, pour ça.
Est-ce que vous avez déjà pensé à la réalisation, Florence Loireca? Je crois que vous avez initié un projet d'adaptation du livre Love Me Tender de Constance Debray, mais sans y participer. Vous avez donné l'idée.
Ouais, c'était un de mes rêves. Et malheureusement, c'est un échec parce que quelqu'un d'autre s'est accaparé le projet. Donc je suis un petit peu déçue. Voilà. Donc mon lien avec ce texte, malheureusement, s'arrête là. Oui.
Désolée d'avoir remué quelque chose de...
C'est pas grave, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres rencontres.
Partons à Bali.
Crétec, là. Pardon.
Vous sentez quoi? Si, allez-y, réagissez.
La Crétec, la cigarette Crétec, là.
Ah oui?
Les cigarettes au clou de girofle, là.
Ah, c'est ce que vous fumez?
C'est ce que les messieurs qui font le gamelan fument.
Ouais. Ah voilà, bah oui, c'est ce qu'on entend.
La cigarette nationale indonésienne.
Gamelan, par Gender Wayang, je pense que je prononce très mal, mais joué par l'ensemble de Pliatan sur l'album Bali Musique et Théâtre. Je vous ai demandé, Florence Loireca, ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie?
Ah oui.
Transmettre à votre fils la poésie de la vie, lui présenter ma deuxième mère en Indonésie, pardonner à ceux qui m'ont blessée. On va commencer par l'enfance en Indonésie.
Oui.
Jusqu'à 16 ans avec une escale en Égypte.
Oui, de 3 ans, oui. Oui, oui, c'est une grande chance, oui, d'avoir appris cette langue et d'avoir... été élevé par cette deuxième mère indonésienne, oui, bien sûr.
Vous pourriez nous dire quelque chose?
Ah, ya, saya tidak bisa bahasa banyak karena saya malu kucing.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Je ne peux pas parler beaucoup parce que je suis timide comme un chat.
Oh. Quel souvenir vous en gardez? Parfois, on vous voit faire des petites vidéos où vous êtes masqué. Vous faites des personnages sur votre compte et vous avez plein de masques, on dirait, chez vous.
Oui, j'ai des masques, oui.
Oui, ont-ils un rapport avec l'Indonésie ou alors je suis vraiment en train d'aller dans une mauvaise direction?
En fait, ce n'est pas des masques indonésiens, mais je ne vois pas de quel masque vous parlez.
Eh bien...
J'ai un clown qui s'appelle Coralie Corail.
Oui, bien sûr, Coralie Corail,
mais
évidemment.
Oui, à un moment j'ai eu des masques, mais ce n'est pas des masques balinais, mais...
D'accord, alors revenons à Bali, qu'est-ce que vous retenez de cette culture? Je crois que le retour en France a été douloureux.
Oui, bien sûr, parce qu'on arrive dans un immeuble, alors qu'on a vécu pieds nus toute l'année, enfin un peu... Dans les rizières et dans un autre climat, oui, oui. C'est surtout aussi les gens qui se parlaient pas. Moi, je disais bonjour dans le RER, les gens, ils répondaient pas, je comprenais pas. Il n'y a pas de lien entre les gens, quoi. Il n'y a pas de contact. Les gens, non, en Occident, on ne se touche pas. Maintenant, c'est devenu un peu comme un paradis perdu, un peu de l'enfance, hein, mais bon.
Comme Duras et l'Indochine.
Oui, voilà, c'est ça. C'est à la fois des lieux qui sont vraiment... c'est là où je suis née, quoi. Et c'est des lieux aussi dont j'ai dû faire le deuil aussi.
Vous y êtes retournée à l'âge adulte?
Pas encore.
Pas encore.
Non.
C'est prévu?
C'est prévu, oui, avec mon fils, j'espère.
L'été, vous rentriez dans le Berry, dans une maison hors du monde, chez votre grand-mère dont vous avez pris le nom de famille.
Voilà, j'ai rajouté son nom pour les génériques de films, oui.
Kay.
Kay. Pour lui rendre hommage. Oui, c'était une femme très, très, très indépendante. Et je trouvais ça bien de, qu'elle soit un peu encore avec moi, dans le jeu.
Le jeu, ça revient tout le temps. Florence Loiret-Kay, vous avez aussi dit pardonner à ceux qui vous ont blessé. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont blessé ?
Non, mais je pense qu'on a tous... On porte tous certaines blessures. Je suis à l'unisson de plein de femmes qui en portent.
Est-ce que donc vous y êtes arrivée ?
Pas encore, mais j'espère.
Quels outils prenez-vous pour y essayer ?
Ah, c'est difficile. Faire confiance en la vie. C'est un peu naïf de dire ça, je ne sais pas. Oui, faire confiance en la vie, ne pas ressasser. Mais en même temps, voilà, ça fait partie de ce qui nous constitue maintenant, donc faut faire avec. Hein.
Je vous ai demandé, Florence Loiret-Kay, ce que vous aviez raté, et vous avez répondu des plats, des rendez-vous, des castings, ma capacité à être zen, à avoir du recul sur les choses et les événements, j'ai raté la patience.
Oh oui, là, c'est complètement, ouais. Oui, ça c'est un gros problème, la patience, ouais, non, c'est horrible.
Vous vivez tout intensément ?
Ouais. Je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être parce que, comme j'étais arrachée à des endroits, je me dis il faut faire les choses à fond. Et puis aussi, grâce aussi, c'est le tas du soleil qui me l'a appris, quoi. Que quand on est sur une scène ou un plateau, ben c'est maintenant, quoi. C'est ici maintenant. Hein. Il y a pas à tergiverser, quoi. Avant c'est pas le moment et après c'est trop tard, en fait.
Mais c'est drôle parce que là vous me rappelez ce que vous avez dit tout à l'heure pour vos premières expériences de jeu où vous pensiez que c'était une seule prise. Donc c'était tout maintenant.
Oui, voilà, c'est ça. C'est être là, et comme elle dit Ariane Mnouchkine, c'est accueillir les images de l'extérieur et de l'intérieur. C'est être à la fois concave et convexe.
Vous êtes concave et convexe ?
J'espère. Pas toujours, hein, parce que parfois je m'énerve.
Justement, on va y arriver à ça. On va y arriver. Mais est-ce que vous avez essayé de la travailler, cette patience ?
J'y arrive pas. Alors on me conseille de faire du yoga, du machin, des trucs de respiration, tout ça, là, de arrêter de fumer. Je vais m'y atteler, mais en même temps j'ai l'impression que c'est un moteur aussi, quoi. Que voilà, là, un peu plus. J'admire des gens zen qui sont pas stressés, qui sont pas énervés pour rien, pour des trucs. Et même les gens qui se déplacent pas dans la rue, ça m'énerve. Enfin, et c'est comme si leur corps ne reconnaissait pas le vôtre. Enfin, il y a un truc. Ton corps est pas tout seul. Il y a d'autres corps aussi, donc partage, quoi. Mais non, ça, j'y arrive pas. C'est comme ça. C'est comme ça.
Chic. Dance, 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 pour introduire ce que vous recommandez de beau aux auditeurs, Florence Loiret-Kay, danser, et dans Bande à part, dans l'interview que vous leur avez donnée, vous dites « Je danse comme une poire ». Comment ça danse une poire ? Faites voir. Ça vous remue les épaules de
oui,
droite à gauche, je le dis pour les auditeurs.
C'est un peu, je sais pas, c'est un fruit qui... C'est plus la poire qui tombe de l'arbre à gauche, je pense. Il fait comme ça, il y a un petit coup de vent, et puis voilà, la musique, c'est un petit peu du vent aussi, c'est un peu du vent dans les mollets, pour reprendre l'expression d'un
très joli film de Karine Tardieu. Vous avez plein de bracelets.
Oui, ça fait des
c'est des bracelets...
Ban, oui, ça s'appelle. Ban. En fait, c'est des joncs en plastique et des feuilles d'or.
On dirait des bracelets de danseuses aussi.
Mais oui, c'est un peu ça. Oui. Il faut danser.
Vous dansez même souvent.
Mais oui, même au coin d'une rue, même
Oui,
on a des petits pas. Faut. Je sais plus qui c'est qui disait. Faut pas alourdir sa pensée du poids de ses souliers. Donc pour être plus léger sur ses pieds, faut danser un petit peu. Puis sinon on est perdu. Hein. Faut danser un peu. Même si on danse comme une poire ou comme une pêche ou une banane, quoi. T'sais.
Vous dansez sans musique, alors ?
On peut danser sans musique aussi. Parfois, ça passe par le corps, en fait. Quand il y a trop de... Quand ça passe plus par la tête, il faut être aussi... Voilà. Il faut garder le lien entre le niveau des poubelles et les étoiles, quoi.
Et le corps, c'est très important. Ça revient pour la poésie que vous faites passer par le corps, la danse, même sans musique.
Oui, il faut. Il faut, c'est le seul endroit où qui ne trahit pas, quoi. Un corps ne peut pas trahir.
Je vous ai demandé, Florence Loreca, il y a un engagement de fin d'émission.
Et... Oh là là.
Ouais. Et vous avez répondu, ne pas m'énerver contre rien ni personne pendant une demi-heure, mais ma parole, vous êtes un loubard.
Oh non, ouais, je pense que c'est ça, loubarde. Ouais.
Vous énervez souvent?
Je m'énerve souvent. Ouais, ouais, je suis un peu soupolée, quoi. Ouais, ouais, je râle. Ouais, ouais, je râle. Ouais, bah c'est une tare, hein.
Ça peut être un moteur aussi.
Mais il y a une phrase de Michaud que j'aime bien, que je comprends pas, mais j'aime bien. Mais parfois, pour me calmer, je me la dis. Je me l'auto-dis. C'est mieux vaut un loup sur la poitrine qu'une taupe dans le fondement. Je me dis, je sais pas pourquoi, c'est comme un mantra, en fait. C'est devenu comme un mantra. Mieux vaut un loup sur la poitrine qu'une taupe dans le fondement, ça me calme, en fait. Je sais pas pourquoi, hein, c'est la magie de Michaud, ça. Quoi.
Je crois qu'il y a une autre phrase de Michaud, je le sais d'une source sûre que vous appréciez. Ne désespérez jamais, faites infuser davantage.
Ah oui, cette phrase, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Exactement, laissez infuser, oui.
Merci beaucoup Florence Loreca, et on va laisser infuser à partir de maintenant. Merci d'être venue.
Merci à vous.
Vous serez prochainement à l'affiche du film « Le syndrome des amours passés » de Anne Siro et Raphaël Balboni et « d'Ibiza » de Stéphane de Moustier. Et vous tournerez bientôt « Passeuse » de Stéphane Marchetti. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur les... Pas sur les réseaux sociaux, c'est nous sur les réseaux sociaux, sur le site de l'émission. J'espère que vous gambillerez toute la semaine comme des astres dauphins. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.